Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Nous avons vu hier le thème intitulé « Ne mourrez pas là-bas ». Ne mourrez pas là-bas. Et ce soir, c'est la continuation de ce thème. Nous sommes donc au deuxième jour de ce thème. Et je voudrais que nous retenions ce qui nous a été donné hier. Le besoin vital de tout homme. Le pasteur Edouard nous a martelé ici. Après le déroulement de ce qui nous retient captif et qui nous maintient dans la mort, il nous a donné le besoin vital de tout homme. Et c'est soumettre ses pensées et son cœur circoncis à la Seigneurie du Seigneur Jésus. Soumettre ses pensées et son cœur à la Seigneurie du Seigneur Jésus. Voilà le besoin vital de tout homme, c'est-à-dire marcher par le Saint-Esprit. Car, vous comme vous le savez, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et à la suite de ce qui nous a été dit hier, il me revenait de conduire ce soir ce thème et le Seigneur nous a dit de nous poser quelques questions. Après nous avoir rappelé ce qu'il a fait pour nous, le Seigneur dit, je vous dis que j'ai tout accompli pour vous. J'ai créé le monde, je vous l'ai donné. J'ai donné la gestion du monde à vous. Je vous ai dit de dominer, d'assujettir, d'être fécond, de multiplier. Vous avez échoué. Mais j'ai donné encore mon fils qui est venu vous libérer, vous justifier, vous laver et vous sauver. Qui est monté au ciel et qui intercède encore pour vous. Il dit, par le biais de mon fils, je vous ai donné le pouvoir de chasser le démon, de guérir les malades, d'annoncer la bonne nouvelle du salut, de délivrer les captifs. Je vous ai donné mon Saint-Esprit. Afin que vous marchiez sur les serpents, sur les scorpions, et que vous soyez victorieux, à l'image de Christ victorieux et de Dieu victorieux. Et la question c'était, qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous en avez fait? Si j'ai fait de vous un peuple acquis, une sacerdoce royale, une nation sainte, la prunelle de mes yeux, le champ de l'Éternel, la couronne de gloire du Seigneur. Qu'est-ce que vous en avez fait? Si j'ai fait de vous la tête et non la queue, si je vous ai donné autant de pouvoir, si je vous ai aimé tant, qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà la question qui me revenait de vous poser. Et je crois que si cette question a été posée, c'est afin que chacun fasse le bilan de sa propre vie. Sur le plan personnel, familial, sur le plan de la communauté que voici, sur le plan de la nation. Et C'est après ce bilan que chacun va faire. Que nous allons continuer dans qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas mourir là-bas. Qu'est-ce qui te fait mourir? Qu'est-ce qui te fait être guetté de mourir là-bas? Qu'est-ce qui te maintient encore là-bas? Là-bas, c'est où? Bien-aimé dans le Seigneur, examine-toi. Que fais-tu encore chez le marabout?
En toi, je mets ma confiance.
Que fais-tu encore chez le marabout? Pourquoi t'abandonnes-tu à cette maladie, à cette pauvreté, comme si Dieu, comme si Jésus n'était pas venu? De riche qu'il était, et de, il se fait pauvre afin que tu deviennes riche. Pourquoi t'abandonnes-tu à cette maladie, comme si Yahweh ne guérit plus? Pourquoi t'abandonnes-tu à ce péché qui te tient encore captif? Comme si le sang de Jésus n'avait pas d'effet. Pourquoi te complais-tu dans ce péché qui te tient et duquel tu ne peux plus te départir? Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus est le prince de la paix. Il est venu afin que nous ayons la paix. Pourquoi es-tu toujours soucieux, décontenancé, abattu, meurtri, amer? Pourquoi? Est-ce que Christ n'était pas venu aussi pour toi? Comment peux-tu permettre que tant de choses te retiennent encore captif, au point où tu risques la mort, alors que Christ est venu afin que tu aies la vie et l'abondance de la vie et que tu aies l'éternité? Pourquoi est-ce que tu te maintiens encore dans ces choses-là? Et Dieu te dit, sors de cette situation. Et c'est pour cela qu'il nous a dit, ne mourrez pas là-bas. Ne mourrez pas là-bas. Sortez de cette situation. Sortez de ce pétrin. Sortez de cette captivité. Dieu a déjà tout fait. Jésus est mort à la croix pour toi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a tout donné. Il a dit, j'ai tout accompli. Qu'est-ce qui te manque pour que tu sortes? Qu'est-ce qui te fait courir encore le risque de mourir là-bas, dans ces péchés et bien d'autres que nous venons de citer? Regardez un pays où il y a 70 ou 75% de chrétiens. Regardez notre pays. Ne sommes-nous pas venus délivrer les captifs? Qu'est-ce qui fait que ta prière n'est pas exaucée? Qu'est-ce qui fait que par ta prière, tu ne peux même pas chasser une petite mouche? Ne mourrez pas là-bas. Ne mourrez pas là-bas. Jésus est venu afin que nous bravions ces choses et que nous soyons à l'avant-garde du salut de l'humanité. C'est pour ça qu'il nous a choisis en tant que ses enfants. Et la parole de Dieu dit, la création tout entière soupire dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Est-ce que tu sais que c'est toi qu'on attend? C'est moi qu'on attend? Est-ce que tu sais que la nation nous attend? Ta famille, ma famille nous attend. L'humanité perdue nous attend. Pendant ce temps, nous disons, on va faire quoi alors? Que va-t-on faire alors? Sais-tu que le Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie? Bien-aimé, face à tout cela, nous devons être meurtris dans notre cœur et changer de paradigme.
changer de nature. Hier, le pasteur nous disait, c'est une question de nature. Qu'est-ce qui fait que nous soyons comme les païens? Qu'on ne demande pas la différence entre le chrétien et le païen. Il veut avoir une différence de nature. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu marches par l'esprit sur le surnaturel. Ta foi te fait percer le mur jusque dans l'extrémité de la terre. Et dans les cieux, tu peux mouvoir les cieux en faveur de la terre. Pourquoi nous sommes aussi timorés que ceux qui ne croient pas en l'Éternel? Que ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur? Est-ce que nous l'avons fait? Ne meurs pas là-bas. Je veux que quelqu'un dise, je ne dois pas mourir là-bas. Je ne dois pas mourir là-bas. Bien-aimé, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Le Seigneur nous a envoyés pour désirer sa présence. Parce que son désir profond est de vivre dans le quotidien de l'homme. C'est de vivre dans le quotidien de l'homme. C'est de marcher avec l'homme. C'est de marcher dans l'homme. C'est de faire de l'homme son ami. Et de son église son épouse. Voilà le désir de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Matthieu 20, verset 28, verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Est-ce qu'il est avec vous? Il est avec toi? Tu es sûr qu'il est avec toi? Afin que tu produises un tel résultat, de toutes les façons, Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Il désire marcher jour après jour avec toi. Quel est ton désir quant à toi? Est-ce que ton désir, c'est de lui laisser ton cœur et tes pensées, de laisser Christ régner sur toi? C'est le désir qu'il veut pour toi en retour. Laissez Christ prendre le règne de ta vie, te conduire. Laissez le Saint-Esprit te diriger. Voilà ce que Christ veut. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme doit donc changer son désir. Au regard du diagnostic que nous avons fait, nous nous rendons compte que nos désirs sont loin de s'attacher à Dieu. Et comme il le dit si bien, ce peuple m'honore des lèvres. Il veut que nous l'honorions de cœur. Bien-aimé, le Seigneur dit, voici le temps favorable. Voici le moment propice. Ne meurs pas là-bas. Ne meurs pas là-bas. Change tes désirs. Si tu as porté tes désirs sur les choses de cette terre, sur les appâts du monde, les richesses, les relations, la recherche de notoriété et de pouvoir, c'est le moment de changer de paradigme et de centrer ta vie sur Jésus. Le désir doit être de donner ton cœur, ta pensée, ton être tout entier à Christ. Et pour qu'il en soit ainsi, trois choses sont nécessaires. Premièrement, l'insatisfaction. Est-ce que tu es satisfait d'être qui tu es dans la situation où tu te trouves? Est-ce que tu es confortable là où tu es? Et si tu l'es, est-ce que tu ne risques pas de mourir là où tu te trouves? Est-ce que tu ne risques pas de mourir là-bas? Je crois que le moment est venu d'avoir le dégoût de notre situation Parce que quand nous regardons l'état de notre église, l'église évangélique, pour ne parler que de celle-là, avec ses querelles, ses incompréhensions, ses divisions. Et si vous, nous venions à mourir là-bas, quand nous regardons notre comportement en société, quand nous regardons notre exploit en Jésus-Christ, notre témoignage chrétien, que ce soit au quartier, au lieu de service, ou même ici à l'église, est-ce qu'il y a lieu d'être satisfait? Bien-aimé, pour changer de paradigme, pour changer de temps, pour s'accrocher à Christ, il faut avoir le dégoût de ce que nous sommes, le dégoût de ce que nous faisons. Il faut être insatisfait. Insatisfait de ce que ma prière n'a pas d'effet. Insatisfait de ce que je ne parviens pas à prier pour un malade, il guérit. Insatisfait de ce que je ne témoigne pas Christ dans mon service ou dans ma famille. Insatisfait de ce que ma famille est encore dans l'idolâtrie. Insatisfait de ce que mon conjoint ne m'a pas rejoint dans la marche avec Christ. Insatisfait de ce que mon enfant n'est pas obéissant et ne connaît pas Christ. Il y a trop de sujets d'insatisfaction et nous devons être insatisfaits de ça. Bien-aimé, si tu te complais à ta situation actuelle, tu vas mourir là-bas. Il vient un temps dans la vie où on est tenu de se métamorphoser, de changer. Et le changement est le résultat d'une insatisfaction jusqu'à ce que je quitte d'une position à une autre. Nous devons changer. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prendre un exemple, un cas. Il y a le cultivateur. Si le cultivateur, pendant la saison de semences, garde encore ses semences avec lui, la saison de semailles, est-ce qu'il sera satisfait? Il sera satisfait pendant qu'on a déjà semé? Il sera satisfait? Et si pendant qu'il garde ses semences, il continue à pleuvoir comme il a plu, alors que le temps passe, est-ce qu'il ne va pas se lancer dans la pluie pour aller semer? Et pendant qu'il se lance, est-ce qu'il est satisfait de la pluie? Mais est-ce qu'il ne sera pas satisfait de la production et des récoltes? Bien-aimé dans le Seigneur, il est question de passer d'un camp à l'autre. Peu importe la souffrance, l'endurance, peu importe la douleur que ça va t'occasionner, il faut quitter ce camp. Le camp de la morosité, le camp de l'échec, le camp de pleurs, des lamentations, il faut quitter. Il faut être insatisfait de rester dans ce camp. Je vais prendre un autre exemple. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère aimerait voir son enfant. Mais pour voir l'enfant, il y a la douleur de l'enfantement. Et pendant la douleur de l'enfantement, il y a l'insatisfaction. Mais le fait de savoir qu'après cette douleur de l'enfantement, on aura un être humain qui est sorti de nous. Cette douleur-là est une douleur qui procrée. C'est une douleur productive. C'est une douleur positive. C'est une douleur créatrice. C'est de cette douleur-là qu'il s'agit. C'est de cette insatisfaction qu'il s'agit. Il est question de pousser jusqu'à ce que nous enfantions notre destinée en Christ. Parce que depuis que Christ a tout accompli pour toi, il attend que tu pousses. Que tu pousses le cri d'enfantement. Qu'importe la douleur que ça fait, que tu pousses jusqu'à ce qu'il naisse au travers de toi et qu'il marche avec toi. Et à ce moment-là, tu ne seras plus le même. tu seras transformé. Et tu vas connaître ce que veut dire marcher dans la gloire de l'Éternel, dans la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des raisons de ne pas être satisfait. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens nous ont montré l'exemple dans la Bible. Sarah n'était pas satisfait. J'allais dire Anne n'était pas satisfait de sa situation. Il a poussé. Il a poussé. Élie a dit que c'est une femme pleine de vin doux. Mais il manifestait, elle manifestait son insatisfaction devant Dieu pour sa situation. David n'était pas satisfait de voir son peuple confiné à la peur, à la souffrance face à un Goliath. Malgré sa taille, malgré son âge, il a dit, je vais contre toi avec ma foi, parce qu'il n'était pas satisfait. Il est question de cette insatisfaction-là. Cette insatisfaction qui produit des grands résultats pour la gloire de Dieu et le bonheur de l'humanité. Tu dois le faire. Jaïbed était né dans une famille de malédiction et son nom même s'appelait malédiction, s'appelait douleur. Il n'était pas satisfait de ce nom-là. Il a dit, Seigneur, jusqu'à ce que tu transformes ma situation. Jusqu'à ce que tu transformes ma situation. Le Seigneur était obligé de transformer sa situation. Bien-aimé, lorsque tu te contentes de la situation où tu te trouves, tu ne seras jamais satisfait. Tu ne sauras jamais marcher d'une position à l'autre. Ne te contente pas de là où tu te trouves, parce que la mort risque de te rencontrer là-bas. Et la parole de Dieu nous dit, ne meurs pas là-bas. Parce que tu n'es pas fait pour mourir. Tu es fait pour la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons intérêt à garder la tête fixée et le cœur fixé en Jésus-Christ. Alors, regarde dans ta vie les situations pour lesquelles tu ne dois pas être satisfait. Est-ce un enfant que tu attends, comme Anne? Agis au lieu de pleurnicher. Est-ce une guerre que tu mènes, comme David? Tiens-toi sur tes deux pieds, prends ta fronde. Qu'importe si l'autre a le javelot, l'essentiel c'est le degré de ta rage, de ton insatisfaction, de ta sainte colère. Dieu veut que ceux qui se lèvent, qui sont enragés pour obtenir la victoire en son nom, Dieu veut cela et les soutiennent, quelle que soit ta faiblesse, tes manquements, tes souillures. Il veut que tu te mettes debout et que tu te dises, trop c'est trop, je ne me contente plus de cette situation où je me trouve, parce que je ne suis pas satisfait de ça, jusqu'à ce que je change de camp. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Ne meurs pas là-bas. Ne meurs pas là-bas. Bien-aimé, après l'insatisfaction, le deuxième élément que tu dois retenir, c'est tes rêves. Tes rêves. Avant d'entrer dans ce qu'on entend par rêve, je voudrais prendre le cas d'un architecte. Un architecte, qu'est-ce qui précède la création d'un objet pour un architecte? Qu'est-ce qui vient avant? Hein? Avant la conception. Hein? Le? Je ne comprends pas.
Le? Ah, Yahweh, mon Dieu.
L'idée?
J'aimerais te dire.
Bien. L'idée. Avant la conception. Merci, papa. Il y a un besoin. N'est-ce pas?
Il y a un besoin. Je vais fabriquer ceci pour faire quoi?
S'il n'y a pas ce pourquoi tu veux fabriquer cela, est-ce que tu vas fabriquer? Je voudrais te dire que tu es une conception de Dieu. Je voudrais te dire que tu es une création parfaite de Dieu. Parfaite de Dieu. Parce qu'après la création, Dieu t'a regardé. Il a vu que tu étais très bon. Et t'a béni. Bien-aimé, est-ce que tu en as jamais pris conscience? Quand je te vois souvent triste, abattu là, c'est comme si tu ignores ce pourquoi tu... Dieu a... Maman Jacques que je vois derrière là. Dieu, avant sa création, avant son enfantement, l'avait conçu longtemps. Que je vais l'enfanter dans telle famille et dans telle société pour telle mission dans la vie. Voilà pourquoi elle est née. Voilà pourquoi chacun de nous est né. Voilà pourquoi vous êtes chacun est unique. Voilà pourquoi chacun est une perfection de Dieu. Même si souvent tu fonds les soucis, le monde aussi te dégoûte, tu ne sais plus quoi en faire. Dieu, quand il te regarde, il ne voit en travers toi qu'une création parfaite. Parce que Dieu ne crée pas les déchets. Et parce qu'il ne crée pas les déchets, il a déjà conçu ce pourquoi il t'a créé avant même de te créer. Donc, tu dois comprendre que tu es un merveilleux projet. Une merveilleuse réalisation de projet de Dieu pour la construction de cette humanité. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu es un merveilleux. Hein? Ou alors, tu es l'aboutissement. Tu es l'aboutissement d'un projet merveilleux de Dieu pour la construction de cette humanité. Dieu du haut des cieux compte sur toi. Et le rêve qu'il a mis en toi, c'est son encre indélébile qu'il a, avec lequel il a écrit sur toi le projet de vie qui te destine afin que tu manifestes le pouvoir qu'il t'a donné et accomplisse ta mission. C'est pour ça que tu dois avoir un rêve. Tu as une mission. Tu as des projets qu'il faut accomplir. C'est Dieu qui te les a écrits. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas ton projet, ton rêve, si tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de vie. Parce que Christ ne t'a pas, on t'a pas créé pour venir te balader ici sur terre et rentrer. Un destin merveilleux t'attend. Et ta vie est collée à une destinée qui aboutit à une percée. Et cette destinée est provoquée par un projet de Dieu qui est inscrit dans toi. C'est ton rêve, c'est ta vision. Et si tu ne connais pas ta vision, il n'est pas tard. Si tu ne connais pas ton rêve, il n'est pas tard. Rentre devant l'Éternel. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formé pour toi. Je connais le projet. Bien-aimé, ne te sous-estime plus. Tu es le projet de Dieu. Tu es une merveille de Dieu. Tu es la gloire de l'Éternel. Tu es la couronne de sa gloire. Il connaît le projet qu'il a pour toi. Et si tu ne connais pas ce projet, rentre voir le concepteur du projet. C'est un projet de paix. C'est un projet de bonheur. Ce n'est pas un projet de malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que c'est que le plan ou le rêve de Dieu pour toi. Et tu dois caresser ce rêve. Tu dois peaufiner ce rêve. Tu dois calquer cela dans ton image mentale tous les jours jusqu'à ce qu'il vienne à exécution. Parce que c'est l'essence de ta vie. C'est ce pourquoi tu es venu sur la terre. Tu as un rêve. Je veux que quelqu'un dise, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Est-ce que tu connais ton rêve? tu connais, rentre devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il te donne. Alors par rapport au rêve, entre dans une sainte colère. Dis: Seigneur, je ne quitterai pas devant toi jusqu'à ce que tu me fasses voir mon rêve, jusqu'à ce que j'entre dans le projet, dans ma destinée, pour ma percée. Parce que je ne suis pas venu ici sur la terre pour rien. Je suis venu pour accomplir un noble projet que tu m'as destiné, pour la construction de ce monde. Voilà pourquoi tu es là. Bien-aimé, après le rêve, il y a la décision. Il y a des gens qui ont des rêves depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Ils ont le même rêve qui n'a jamais bougé, parce qu'ils ne se sont jamais décidés à mettre leur rêve à exécution. Il leur a manqué la décision d'accomplir son rêve et la décision née d'une détermination à passer de la pensée, de la conception mentale d'une image de ma vie future à sa réalisation, à sa mise en concrétisation. Je me lèverai. Je me lèverai pour mettre en pratique mon rêve. Il faut la décision. Il faut une ferme détermination. Il faut la foi. C'est pour ça que la parole de Dieu dit: la foi sans les œuvres est morte. À quoi sert ta foi si elle ne peut pas se réaliser dans les actes? Il faut la détermination. Il faut l'opiniâtreté. Il faut le zèle. Il faut l'audace. Et Dieu a mis en toi tout cela. L'intelligence qu'il t'a donnée, la sagesse qu'il t'a donnée, la force qu'il t'a donnée, les pieds, les mains, l'audition, tout cela concourt à réaliser ton rêve à travers une décision ferme. Dieu attend que tu concrétises ton rêve par une décision. Daniel, quand il était chez Nebuchadnezzar, il devait manger dans la table du roi. Il a pris la ferme décision de ne pas se laisser souiller. Ceux qui prennent une décision ferme réalisent le plan de leur projet, de leur vie. Ceux qui se décident à passer à l'action, à marcher, et qui écrase l'adversité, les difficultés, les montagnes, seuls ceux-là réussissent. Pourquoi ils écrasent l'adversité, les montagnes, les persécutions et autres? Parce qu'ils savent que Dieu ne peut pas inscrire dans ta vie un rêve qui ne puisse pas s'accomplir. Même les difficultés dans ta vie sont les tremplins, sont les catalyseurs pour réaliser ton rêve. Il faut une décision à cela. Goliath l'a fait, David l'a fait. Et pendant que David faisait, le roi Saül lui a dit: mon fils, tu n'as jamais fait la guerre. Goliath s'est toujours exercé à la guerre. Tu vas où? David a dit: je suis déterminé. Il a insulté mon Dieu. Jacob l'a fait. Lorsqu'il a lutté avec un ange, il a dit: tu ne partiras pas d'ici sans m'avoir béni. Je signe sur toi jusqu'à ce que tu me bénisses. Signe sur ton projet, signe sur ton rêve jusqu'à ce que le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour te déverser c'est l'abondance de ta vie et tu réaliseras ton rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que si tu ne marches pas, tu ne sauras pas que tu peux courir. Je dis que si tu ne marches pas, tu ne sauras pas que tu peux courir. Et si tu ne cours pas, tu ne sauras pas que tu peux voler. Est-ce que l'homme vole? Le Seigneur dit dans Ésaïe 40, verset 31, ceux qui se confient à moi renouvellent leur force et prennent leur vol comme les aigles et marchent sans se fatiguer et courent sans s'épuiser. Bien-aimé, je voudrais te dire que tu es de la race des aigles. Tu n'es pas de la race des êtres humains. Tu es fait pour voler. Tu es fait pour prendre l'envol. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu t'attaches à lui, tu marches comme il a marché. Tu réalises des espoirs. Et le Seigneur l'a dit. Dans Psaume 60, verset 14. Avec moi, vous réaliserez des exploits. Dieu l'a dit encore en Psaume 68, verset 29. J'ordonne que vous soyez puissants. J'ordonne que vous soyez puissants. N'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur de progresser. C'est de la volonté de Dieu que vous progressiez, que vous avanciez, que vous entriez dans votre destinée et que vous entriez dans votre percée. C'est de la décision, c'est de la volonté de Dieu. Mais ça demande que certains ennemis soient vaincus. Et comme nous avons dit tantôt, sache que les ennemis de ta vie sont les catalyseurs de ton succès. Mais si tu veux livrer un match, on te dit que tu as déjà gagné, voici la trophée. Toi-même, tu veux applaudir. Il faut un adversaire. Il faut que le match ait lieu. Tu as des adversaires dans ta vie. Tu as tes compagnons. Des compagnons. Toi, chrétien, que fais-tu avec un non-chrétien? Sépare-toi de lui. Vous n'avez rien de commun. Marche-t-on jamais ensemble sans s'entendre? Amos 3:3. Vous allez dire quoi? Si tu ne tires pas dans ton camp, ça veut dire que tu es resté dans son camp. Vous savez que nous sommes partis du camp de païens, non? La compagnie, la parole de Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si nous marchons avec ceux qui ne sont pas de même nature que nous, nous avons le risque de changer de nature et d'être comme eux. Et je voudrais dire, il ne s'agit même pas seulement de nature. Je te conseille, mon frère, ma soeur, je te conseille. C'est pas toi de l'homme qui, ou de la femme qui porte encore dans son dictionnaire certains mots. Découragement, abandon, hein? Dépassement. Je suis dépassé. Tristesse, déception, malheur, humiliation. Séparez-vous de ceux-là qui s'appellent chrétiens ou pas, parce qu'ils vont vous tirer vers l'arrière. Si vous ne marchez pas avec celui qui va vous pousser vers l'avant, séparez-vous de lui. Pourquoi? Vous savez ce qu'on cherche? C'est le royaume qu'on cherche. Et nous sommes faits pour atteindre le sommet, pas pour rester dans le bas-fond. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu es la tête et non la queue. Que fais-tu dans le bas-fond? Ne meurs pas là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, autre chose, c'est les pensées erronées. Les pensées erronées, j'allais dire même des confessions négatives. Débarrasse-toi des confessions négatives et des pensées erronées. Les deux ne sont pas les mêmes. Je reviens d'abord aux pensées erronées pour dire qu'il s'agit des pensées qui te détournent de la voie juste et droite. Vous savez, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si une pensée n'est pas captive à l'obéissance de Christ, c'est une pensée erronée. Si une pensée ne te conduit pas à Christ, ne te fait pas avancer, c'est une pensée erronée. Il faut qu'une pensée t'édifie, te construise, te développe et t'amène à viser le but que tu poursuis. Sinon, c'est une pensée erronée. J'allais dire, une pensée n'est pas erronée lorsqu'elle t'amène à accomplir ta mission. Bien, il y a encore les facteurs de dérangement de temps. Je les appelle comme ça, les facteurs de dérangement de temps. Ceux qui volent votre temps. Et je voudrais dire à quelqu'un ici, les anglo-saxons disent que le temps c'est la vie. Le temps c'est la... c'est la... Non, le temps c'est pas l'argent. On peut vous voler l'argent et vous chercher l'autre. Quand vous volez le temps est fini. Vous ne pouvez plus rentrer à ce temps-là. Le temps c'est la vie. Le temps c'est la vie. Pourquoi être autre et cela pendant qu'un autre est érudit? C'est que pendant que l'érudit, le savant, utilisait son temps pour étudier les phénomènes, pour accumuler les connaissances, l'autre est allé s'asseoir sur le casier et a commencé à utiliser son temps à boire. Le temps, c'est la vie. Au lieu de voler ton temps, il faut voler ton argent et tes biens. On te jugera selon la façon dont tu as géré ton temps, pas selon la façon dont tu as géré ton argent, mais d'abord ton temps. Parce que mal gérer son temps, c'est son temps, son argent, c'est utiliser son temps à gérer maladroitement son argent. Et encore là, il y a le temps. Rien ne se fait sans temps. Et je voudrais attirer notre attention sur une chose. Il y a deux voleurs de temps principaux. Je m'adresse aux jeunes, mais même aux papas et aux mamans. Il y a la télévision, avec les séries et autres. Et il y a le téléphone. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Les deux là peuvent vous faire mourir là-bas. La télévision et le téléphone. Pourtant, on ne peut pas s'en passer, n'est-ce pas? Mais il faut savoir en faire bon usage. Sinon, vous allez mourir là-bas. Je voudrais continuer avec l'ignorance. Mon peuple meurt pourquoi? Mon frère, ma soeur, forme-toi, cultive-toi, cherche la connaissance, cherche la sagesse. Cherche l'intelligence. Je sais qu'il y a des gens qui sont sortis depuis qu'ils sont sortis de l'école et ont trouvé un petit emploi. Ils n'ont plus jamais appris. Même la méditation, zéro. Ils disent, Dieu m'a déjà béni. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais à côté de Pasteur Godson. Je lui dis, comment tu fais pour avoir tant de connaissances et de tissus? Il m'a dit ceci, et je vous le livre, parce que ce qui est bon, il faut livrer, n'est-ce pas? Il a dit, quand j'achète 28 livres, c'est alors que j'achète une chemise. Quand j'achète 28 livres et je les lis, je n'achète pas seulement, c'est alors que j'achète une chemise ou un pantalon.
Et je me souviens d'un autre homme de Dieu qui m'avait dit,
c'est Jean-Benoît Casteman, c'est un prêtre, qui m'avait dit, mon ami, lorsque Dieu te prend, lorsque tu reçois la grâce de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Il attend de toi une chose, que tu ne dormes plus. Que tu travailles nuit et jour, parce que tu as trop de repos et tu vas te reposer une fois. Que tu travailles nuit et jour. Et souvent, il me donnait rendez-vous à son bureau à 2h du matin. Parce qu'il dort 2h. Le petit blanc là que vous voyez passer souvent à la télé, là, petit comme ça. Il dort 2h jusqu'à 4h. Il fait son sport de 4h à 6h. Et il va nu-pied. Il ne porte jamais les chaussures. Bien-aimé dans le Seigneur, éloigne-toi de l'ignorance. Une dernière chose que je vais nous dire, éloigne-toi, méfie-toi de toi-même. Parce que l'ennemi le plus dangereux, c'est toi. Comme l'ami le plus sincère peut être toujours toi.
Si tu te rends compte que c'est toi qui es ignorant, que c'est toi qui es un mauvais compagnon, que c'est toi qui as des esprits de raisonnements erronés, que c'est toi qui es nourri d'amertume et de toutes sortes de morosités,
éloigne-toi de toi. C'est même pas toi là-bas. C'est pas celui que Dieu a voulu créer. Parce que celui que Dieu a voulu créer vit comme moi-ci. Il est toujours joyeux. Excusez-moi, je vous dis, je ne vous mens pas. Il est toujours joyeux, il est toujours gai, il est toujours bien portant. Il a toujours le temps d'adorer son Père et de méditer sa parole, d'être rassasié. Je vous le dis pour que, s'il vous plaît, que vous alliez faire plus, pour venir aussi me conseiller, que oriente-toi encore par-ci, pour que nous nous enrichissions. Bien-aimé dans le Seigneur, le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même. Je m'en suis rendu compte parce que il y a des gens qui viennent souvent chez moi avec des paniers de problèmes. Et après une conversation, ils rentrent joyeux. Qu'est-ce qu'on leur a donné? L'argent, l'eau à boire. On a seulement causé. Ils sont rentrés joyeux. Parce qu'on a sorti l'ennemi qu'il y avait en eux. Et on les a laissés eux-mêmes. Ils sont devenus cons.
Bien-aimé, lorsque tu es morose, timide, décontenancé, ainsi de suite,
sache que le diable t'a volé. Il est venu te remplacer par quelqu'un d'autre. Parce que le Seigneur dit, soyez toujours joyeux. Et il dit que vous ne devez pas être timide. Que ce n'est pas la timidité qui vous a donné, c'est la force. C'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour. C'est tout cela.
Bien-aimé dans le Seigneur,
face à ce que nous venons de lire, de comprendre, je crois que le Seigneur nous invite ce soir à entrer dans une autre dimension de vie qui nous arrache de la mort qui nous guettait à la vie éternelle, à la marche avec lui, à la consécration et à la dévotion. Et si tel est le cas, bien-aimé, lève-toi. On va prier.
Dis au Seigneur que tu ne veux pas mourir là-bas. Dis au Seigneur que tu ne veux pas mourir là-bas. Dis au Seigneur que tu veux la vie et l'éternité. Que tu ne veux pas mourir là-bas. Tu ne veux pas mourir dans cette maladie qui te taraude. Tu ne veux pas mourir dans ce célibat. Dis au Seigneur que tu ne veux pas mourir dans le non-exaucement de ta prière. Dis que tu ne veux pas mourir dans la pauvreté, dans la stagnation. Dis au Seigneur que tu ne veux pas mourir là-bas. Dis-lui que tu veux vivre. Dis Seigneur, tu es le Seigneur de la victoire, de la paix, de la joie, de la gloire. Tu es le Seigneur de la vie éternelle. Je veux être comme toi parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Je ne veux pas mourir là-bas. Engage-toi à changer de cap, à changer de côté, à changer de paradigme. Dis, Seigneur, je veux vivre. Seigneur, je veux marcher en toi, par toi et pour toi. Parce que je désire faire ta volonté. Dis au Seigneur que tu ne veux pas que ta famille meure dans la stagnation, dans la pauvreté. Tu ne veux pas que les tiens meurent là-bas. Tu veux que les tiens soient sauvés. Tu veux que son esprit inonde ta famille, ta vie, ta communauté. Dis au Seigneur que tu veux traverser pour aller dans le cadre du succès, de la victoire, de l'abondance, de l'amour, de la joie, de la prospérité. Renonce à tout péché qui t'empêche d'embrasser Christ. Renonce à cela. Tu le connais mieux que quiconque. Dis, Seigneur, je renonce à telle chose. Renonce à ce qui te tient encore captif dans la mort. Souviens-toi que tu es créé à l'image et à la ressemblance de ton Dieu. Et dis, Seigneur, je vais épouser ton identité, ta victoire, ta sainteté. Je veux épouser ta gloire. Je veux épouser tes exploits. Je veux vivre dans le succès. Je veux entrer dans ma destinée. Conduis-moi, Seigneur.
Demande au Seigneur de te montrer ta mission, ta vision, ton rêve, de te centrer sur ton rêve afin que tu ne vadrouilles pas sur cette terre, mais que tu sois un instrument entre ses mains pour réaliser la noble œuvre qu'il t'a donné de faire pendant qu'il t'a envoyé ici. Dis, Seigneur, je veux entrer dans mon projet, je veux concrétiser mon rêve, je veux réaliser tes projets à moi. Seigneur, ouvre ma destinée à la connaissance de ta volonté et conduis-moi dans ma percée. Demande au Seigneur de te libérer de mauvaises compagnies, des compagnies qui sont des pesanteurs, au lieu d'être des catalyseurs. Que le Seigneur t'aide à t'en séparer au nom de Jésus-Christ et que sa force te soutienne pour que tu marches selon la voie qu'il t'a donnée. Demande au Saint-Esprit de venir tailler en toi tout ce qui n'est pas le raisonnement selon le cœur de Dieu, afin que tes dispositions, tes aspirations répondent à la volonté de Dieu et que tu marches dans sa voie au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur que tu veux vivre et que tu veux vivre dans la liberté que Christ te donne. Et passons maintenant à la déclaration de la liberté. Souviens-toi que par sa mort à la croix, Christ t'a libéré. Et dis après moi maintenant. Par sa mort à la croix, Christ m'a libéré. Par sa parole, Christ m'a affranchi du joug de l'esclavage du péché. J'étendrai mes limites jusqu'à ce que je jouisse du meilleur que Dieu a réservé pour moi. Toute entrave, toute adversité, toute difficulté dans ma vie constitue des tremplins pour ma progression, parce que Christ m'a libéré, parce que je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, toute captivité de l'ennemi est transformée en liberté au nom de Jésus. Je marche par l'esprit et non par la chair. Je suis inarrêtable, je suis irrépréhensible. Je suis invincible. Je suis invisible aux yeux de l'ennemi. Je suis irréprochable sur le chemin de mon ascension et de ma percée parce que Christ m'a libéré. Voici le moment favorable. Voici le temps idéal. Je me lève. Je marche pour Christ. Je cours pour Christ. Je prends mon envol pour Christ. Je règne pour Christ. Parce que Christ m'a libéré. Au nom de Jésus-Christ. Rien, plus rien ne m'arrêtera. Plus rien ne me freinera. Plus rien ne me retardera. Plus rien ne m'empêchera d'atteindre le sommet que Christ m'a destiné. Parce que Christ m'a libéré. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu notre Dieu. Je prie. Loué sois-tu notre Père, parce que tu as été avec nous ce soir. S'il te plaît, notre Dieu, ne nous fais pas mourir là-bas. Écoute le cri de notre cœur et conduis-nous dans ta demeure, afin que nous marchions dans ta sainteté, pour ta gloire et pour le bonheur de ton peuple. Seigneur, réveille-nous de notre sommeil léthargique. Et conduis-nous vers les sommets auxquels tu nous destines, afin que nous déployions la nature que tu nous as donnée, la nature divine, Seigneur, et que nous y conduisions aussi beaucoup pour la gloire de ton Saint-Nom et le bonheur de tout ton peuple. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen.